Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais continuer sur les deux chroniques précédentes qui portaient sur la construction de la Grande Pyramide. Et je pense que vous avez été intéressé pour la découverte du mystère de sa construction, qui en fait n'est, comme j'ai tenté de vous l'expliquer, n'était pas un grand mystère, mais surtout, ça posait des questions sur notre société et surtout le regard que nous avons sur les sociétés antiques, comme sur les sociétés qui sont différentes des nôtres, et toujours avec un regard, on peut dire, de l'Occident, dominateur, entre guillemets. Également, je vais vous parler de ce que je pense être le rôle de l'architecte, et nous avons parlé au cours de l'émission précédente des différentes explications qui ont été données dans les dernières années, et notamment une qui faisait appel à un système très sophistiqué de Dassault System pour donner l'explication. Bon, ce qui me semble assez surprenant, puisque justement ce qui m'importait et ce qui me paraît être la clé de la solution, c'est d'essayer de se mettre dans la peau de l'architecte et aussi dans une pensée d'une continuité de civilisation et non pas sur une civilisation mystérieuse, différente, dont le sens nous échappe. C'est en fait, je pense, la même stratégie que l'on peut appliquer pour des cultures différentes, par exemple pour celle de l'Afrique, mais aussi, et nous le verrons au cours d'émissions différentes, la manière, le regard et les explications que l'on peut donner sur les sociétés dites préhistoriques, donc celles qui sont nées avant, on peut dire, l'écriture, et dont nous avons que des fragments qui nous sont parvenus jusqu'à nous. Et je pense que c'est un sujet de débat qui intéresse tout le monde et sur lequel je vous donnerai ma vision. Bon, mais revenons à l'Égypte. Alors, la vision, effectivement, est celle, comme je vous ai dit déjà, de peuples qui sont, entre guillemets, non techniques. Et de ce fait, on se pose cette question centrale, comment une pensée, comment une organisation sans les techniques que nous avons aujourd'hui peut arriver à faire des monuments aussi surprenants et aussi renversants sur le plan de la qualité et de la performance. Alors, il est vrai que il faut positionner les techniques modernes, notamment les techniques de levage dans la période moderne, c'est-à-dire le 19e siècle et encore la fin du 19e siècle, et surtout le 20e siècle. Donc en fait, on peut penser que toute l'histoire de l'humanité se passe de ces techniques contemporaines. Mais ceci ne change pas tellement aux choses parce que, comme j'ai essayé de le montrer, il s'agit avant tout de savoir-faire et d'organisation. Donc la technique n'est que un support, mais une technique sans organisation, une technique sans organisation n'amène à rien. Je pense que les grandes performances que nous avons aujourd'hui, nous sommes à Toulouse et prenons les avions, et notamment les Airbus comme fleuron de l'aéronautique mondiale, mais c'est surtout une performance d'organisation, parce qu'il s'agit d'un atelier de montage de toute une série d'éléments techniques qui font, ne serait-ce que sur notre région Occitanie, fait appel je crois, à 15 000 sous-traitants, mais vous savez qu'il y a des pièces qui arrivent, soit par les camions, soit par l'avion transporteur également, et qu'il s'agit en fait d'un montage, on peut dire, non seulement européen, mais même mondial. Donc, ce qui est la performance, c'est surtout l'organisation de l'assemblage, qui demande une organisation de type, entre guillemets, militaire, mais on peut dire extrêmement précise, scientifique, à la fois dans l'espace, à la fois dans le temps. Alors, par exemple, pour continuer la métaphore de l'Airbus, on n'est pas du tout dans une production de Fordienne, où on a, comme on le voit, un tapis roulant qui fait avancer avec des robots les produits à confectionner, et les robots ou les hommes assemblent, et on a à l'entrée les pièces qui arrivent, et puis à la sortie on a les voitures qui sortent les unes après les autres, comme il peut en être les autres produits industriels. Là, je parle des avions, mais ça peut être aussi sur les satellites qui sont aussi construits à Toulouse, qui sont des assemblages de pièces dont beaucoup sont fabriquées d'une manière, on peut dire, artisanale. Elles sont fabriquées par des petites PME, et beaucoup d'éléments sont fabriqués, on peut dire, par des machines-outils, mais qui sont fabriqués, entre guillemets, à la main. Donc, pour reprendre notre image de la pyramide, mais c'est le cas des bâtiments qui ont été construits au cours des siècles. J'ai déjà parlé de la construction de la cathédrale, et là aussi il y a un mythe. Alors, dans le premier cas, celui de la pyramide, nous avons le mythe d'une société, on peut dire, esclavagiste, avec des hommes qui, si ce n'est sous les fouets, mais en tout cas poussent des masses énormes jusqu'à en mourir. Et puis, de l'autre côté, on a le mythe des ouvriers, des artisans, des compagnons sur les échelles qui assemblent dans une sorte de génie collectif la cathédrale. En fait, autant une explication comme l'autre sont aussi fausses, parce qu'il s'agit en fait de montages extrêmement précis, où les pièces sont numérotées exactement comme elles le sont, comme je vous disais, dans l'industrie de lourde aujourd'hui. Et il s'agit donc d'une planification extrêmement précise, avec un assemblage évidemment, des spécialisations artisanales, et avec justement ce type d'organisation. Donc, ce n'est ni une sorte de fraternité joyeuse d'un côté, et pas plus que c'est une oppression de l'autre. Il s'agit, dans le cas de la pyramide, comme je vous avais expliqué, une grande partie, ce sont des extraits de carrière, avec un transport sur le Nil et toute une série hydraulique de levage des éléments qui constituent la pyramide. Et tout cela, c'est une question extrêmement précise d'hydraulique qui utilise la crue du Nil, enfin des systèmes complexes que les Égyptiens maîtrisaient très bien, mais également des assemblages extrêmement précis, avec des levages qui sont faits au millimètre, avec une grande précision, avec effectivement des géomètres, des alignements, et surtout une organisation de chantier extrêmement précise, et certainement un chantier qui est pensé à l'avance dans les moindres détails. Là aussi, dans les romans, on a pu voir les chantiers, mais là aussi, il s'agit d'une projection qui est certainement une projection actuelle de certains chantiers qui sont mal organisés. Et il faut penser que, justement, dans les époques précédentes, les vies étaient courtes. Alors, d'autant plus quand il s'agit d'un bâtiment funéraire, mais comme j'ai pu vous le dire, l'histoire des cathédrales qui se faisait sur plusieurs siècles, c'était des chantiers qui était interrompu pour des questions souvent de la plupart du temps d'argent, mais qui faisait que on pouvait les utiliser et les bâtiments étaient consacrés, utilisés, puis on continuait de faire des adjonctions et des développements comme les tours, les clochers, etc., qui pouvaient être espacés dans le temps. Mais il ne s'agissait pas d'un chantier ouvert qui durait des siècles. Bien sûr qu'un chantier doit être fait d'une manière relativement rapide. Donc, tout cet ensemble de conditions montre qu'il s'agit d'organisations, donc certainement plus près du monde aujourd'hui de la grosse industrie lourde, mais qu'en fait, on est dans une grande continuité de civilisation où c'est dans les sociétés très organisées, on a un grand nombre de personnes qui peuvent travailler de concert avec des organisations très complexes et d'amener des éléments sur des distances aussi très importantes. Donc, quand on parle par exemple de la mondialisation aujourd'hui, on peut dire que la mondialisation, elle a toujours existé et que des nombreuses pièces dans l'architecture ont pu être amenées sur des territoires et des continents différents, dans des assemblages à la fois de mobilier, à la fois d'architecture et à la fois aussi dans ce qui était à l'époque l'industrie. Donc en fait, on peut dire rien de nouveau sous le soleil, si ce n'est que aujourd'hui nous avons une grande rapidité pour de transport, mais au final, l'efficacité n'est pas plus extraordinaire en ce qui concerne notamment le bâtiment. On a vu des chantiers, par exemple, il y a à Berlin quelque chose qui est à l'envers de l'efficacité allemande ou supposait-elle, le chantier de l'aéroport qui dure, je crois, depuis 15 ans, avec l'impossibilité de l'ouvrir, parce qu'il y a chaque fois, à la suite d'une très mauvaise organisation, et les mauvaises organisations sont toujours liées au même motif, parce qu'il n'y a pas une organisation verticale, pyramidale, c'est le sujet dont je parle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une organisation, comme je vous disais, militaire, qui fait qu'il y ait une responsabilité en ligne. Alors, comme j'avais pu vous le dire, le rôle de l'architecte dans la relation à son client est probablement une des grandes constantes historiques. Alors aujourd'hui, tout cela est caviardé parce qu'il y a des armadas d'ingénieurs et des économistes et des experts en thermique, etc., qui font que on vous parle de l'équipe de conception. Tout ça, c'est une vision qui est totalement fausse parce que la réalité, c'est effectivement une réalité pyramidale, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui décide, quelqu'un qui conçoit, et puis après, effectivement, il peut y avoir une chaîne de spécialistes en suivant, mais il n'empêche que le projet, qu'il soit industriel ou architectural, doit être pensé globalement et défini en amont. On va marquer une pause musical, et puis nous reprendrons sur ce sujet. Thank you. Reprenons sur l'architecte et cet universel qui franchit les civilisations et les peuples. Et même si le mot n'existe pas, la fonction est la même d'une manière universelle. Comme je vous disais, donc, il y a forcément un concepteur, organisateur unique, et ce ne peut pas être le fruit du hasard et d'une équipe variable. Donc, ça m'amène à vous parler justement de cette relation entre l'architecte et le client qui me paraît quelque chose de fort intéressant. Et comme je vous disais, l'architecte du pharaon, l'architecte du pharaon a vendu au pharaon un principe qui était innovant. Donc bien sûr, il répondait à une demande. La demande, elle était: je veux faire quelque chose qui soit à la fois dans la continuité de ce qui s'est fait, mais qui se distingue et qui soit quelque chose qui va m'immortaliser à tous les sens du terme et traverser les siècles et les millénaires. Je pense que dans ce sens, l'architecte du pharaon a rempli son contrat, on ne peut mieux. Alors, bien sûr, il était sûr de son coup, il avait bien pensé et planifié la chose. Et la question est justement de cet engagement qui est un engagement moral, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de promettre ce que l'on ne peut pas tenir. Alors, pour ceux qui ont déjà écouté d'autres émissions, notamment les concours d'architecture sur lesquels j'avais développé mon aversion pour ce type de procédure qui est une fiction et qui est surtout basée sur l'inverse de cette confiance entre maître d'ouvrage, le client, et maître d'œuvre, l'architecte, mais qui est dans une sorte de compétition, fausse compétition, parce qu'il s'agit en fait que du virtuel et non pas du réel. Eh bien, on se retrouvait donc avec, par la force des choses, une sorte, pas d'obligation, mais en tout cas de tentation pour les architectes de mentir à la fois sur les délais, à la fois sur la qualité du bâtiment et à la fois aussi sur l'économie. Un de nos architectes les plus médiatisés, bon, je peux le nommer, il s'agit de Jean Nouvel, qui est, on peut dire, coutumier du dépassement de budget dans ses chantiers, a reconnu, lors du chantier du Philharmonique de Paris, où effectivement il était accusé d'avoir triplé ou quadruplé son budget, avait, pour sa défense, dit que de toute façon, il le savait et que les chantiers sont toujours sous-estimés par les clients ou les conseils des clients, et qu'en fait, l'architecte, en fait, il était honnête parce que il mentait pour la réalisation et qu'après, eh bien, on payait. Alors, j'ai entendu ça aussi dans les écoles d'architecture par certains professeurs qui disent, de toute façon, il n'y a pas de comportement immoral à dépasser les budgets, puisqu'en fait, c'est quelque part pour l'architecture et que de toute façon, les clients, alors surtout les clients publics, mentent et sous-estiment les projets. C'est-à-dire qu'en fait, il avait une sorte de jeu de dupes où tout le monde était en connivence, on faisait les budgets moins élevés, comme dans le marchandage, pour après les ramener à un coût bien supérieur. Bon, tout cela est évidemment est une absurdité totale et d'une irresponsabilité, notamment un pays comme le nôtre où on sait que les dépenses publiques sont en perpétuelle croissance et pas forcément pour à la fois des services et à la fois pour des qualités supérieures. Donc ça nous ramène toujours à cette position morale de l'engagement, et donc je crois beaucoup plus, et je vous l'avais dit, un engagement de personne en personne, avec effectivement la sanction qui doit être donnée. Alors, bon, sans tomber dans une bande dessinée où on aurait pu penser que l'architecte du pharaon finissait comme dans les films, les péplums, dans un bassin mangé par les crocodiles, mais enfin, on peut penser qu'il peut y avoir d'autres sanctions pécuniaires. En tout cas, on ne peut aussi mettre une période on peut dire, de latence pour que l'architecte qui a dépassé les budgets, eh bien, apprenne mieux son métier et puisse se repentir la fois suivante. Bon, mais tout cela n'est pas fait. Et donc, on peut dire que ce comportement moral aussi n'est pas demandé et exigé. Alors, je vous parlais des écoles d'architecture et c'est assez grave puisqu'il s'agit des futurs architectes à qui on n'inculque pas, les principes moraux qui me paraissent être la base de la profession et la base de l'engagement. Encore une fois, quand il s'agit de bâtiments publics, mais évidemment, quand il s'agit de bâtiments privés, ça peut constituer des choses graves au vu des sommes qui sont impliquées et qui peuvent mettre en danger des entreprises, des particuliers, des familles, etc. Donc, tout cela me paraît important et donc, aujourd'hui, on peut dire que nous avons une conception de la morale différente. Alors, il y a des cours qui sont donnés dans les écoles d'architecture notamment, ou aussi des exposés des organismes professionnels, syndicats, ordres des architectes, et où on parle de la morale et de l'éthique de l'architecte. Ben écoutez, c'est surtout, on parle de la responsabilité de l'architecte face à la planète. Alors effectivement, aujourd'hui, on a remplacé cette morale directe individuelle, collective à l'intérieur d'une communauté ou d'une nation par une évanescence de la planète qui renvoie à des choses qui me semblent assez, on peut dire, bon, je ne sais pas si on peut employer le mot irresponsable parce que ce n'est pas forcément tout négatif, c'est-à-dire que je ne voudrais pas qu'on me fasse dire ce que je ne dis pas, c'est que il fait partie de la responsabilité de tout décideur et de tout architecte de faire des bâtiments qui soient des bâtiments au point de vue énergétique, aux bâtiments de la, pour la durabilité également, qui soient aussi des bâtiments qui soient sains, mais qui soient des bâtiments, on parle de passoires thermiques, ben, des bâtiments qui ne prennent pas l'eau. Alors tout cela, ce sont les contraintes, on peut dire, de base, ce que l'on doit. Donc, il n'y a pas par rapport à cela de grands discours. C'est quelque chose qui est normalement, qui fait partie de la responsabilité professionnelle, mais comme tous les métiers l'ont. Les médecins ont le serment d'Hippocrate et les artisans, ils ont la responsabilité de faire bien le travail qui leur est donné. Et fort heureusement, c'est quelque chose qui, on peut dire, est assez généralement admis. Mais dans le cas, effectivement, de l'architecte, ça prend le pas sur les véritables responsabilités sociales qui sont, on peut dire, en premier lieu, ce que je vous disais, c'était un bâtiment qui dure dans le temps, qui n'est pas de problème, on peut dire, on parlait d'étanchéité, de sinistres possibles, et non seulement dans le cadre des décennales et des obligations d'assurance, mais au-delà de cela. Donc ça, on peut dire, c'est la première responsabilité, ce qu'Alberti appelait le firmitas, c'est-à-dire le bâtiment qui soit durable. Ensuite, il y a le bâtiment qui soit fonctionnel. C'est ce que Alberti appelle nécessitas, c'est-à-dire qu'un bâtiment doit être adapté à sa fonction. Et là aussi, c'est quelque chose qui aujourd'hui passe après d'autres lubies à la mode, où un bâtiment doit être adapté à sa fonction. Et quand j'entends parler d'une école innovante, on pourrait penser qu'il s'agit d'une école avec une architecture qui est adaptée ou à la pédagogie, au bien des enfants, au bien-être de l'enseignement et du rapport qui peut exister cette expérience. Mais non, pas du tout. On parle d'un chauffe-eau solaire et de choses qui sont des éléments, certes, qui sont nécessaires, qui ne sont pas à rejeter, mais qui sont hiérarchiquement secondaires. Donc, je vous disais, en premier, firmitas, le bâtiment qui dure, et en deuxième, le bâtiment qui fonctionne, le bâtiment qui soit adapté à son besoin. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui traverse l'histoire, avec aussi une possibilité, c'est que le bâtiment aussi, s'il est bien pensé, puisse évoluer dans le temps et d'une manière assez simple, comme l'on voit des bâtiments anciens et peut-être moins des bâtiments actuels, qui puissent être modifiés sans que ça puisse nuire à la qualité de l'ouvrage. Voilà, me semble-t-il, les données les plus essentielles qui me paraissent de cette continuité morale. Et j'ai commencé avec l'architecte de la pyramide, et vous voyez, j'arrive avec nos bâtiments d'aujourd'hui. Voilà pour aujourd'hui, et je vous souhaite une bonne semaine, et à la semaine prochaine.